On va commencer. Donc moi, je m'appelle Francesco. Je suis italien d'origine. J'habite à Paris, où j'ai créé avec Domenico une société qui s'appelle Volume, qui est un tiers-lieu créatif et productif. J'essaierai de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Et très, très spécifiquement, enfin, l'idée avec Juan et Domenico, c'était de vous présenter un aspect très spécifique de notre projet qui est le Food Lab, donc le petit logo que vous voyez là-haut, qui est une association qui a émergé, on va dire, en cours de route après la création de notre projet, et qui est un laboratoire d'expérimentation culinaire. Du coup, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je suis architecte aussi, comme eux. Je ne suis pas, je suis là en Ariège. C'était pas prévu que je fasse cette présentation. Donc,
Merci.
ça c'est pour dire que je ne suis pas vraiment au courant de ce que vous avez fait avant. Donc, je vais vous poser peut-être des questions voilà, pour comprendre et pour mieux vous expliquer. Et si vous si ce que je raconte, c'est pas compréhensible, n'hésitez pas à m'arrêter. Il y aura moyen de poser des questions à la fin. On a quoi, une petite heure en tout, trois quarts d'heure?
Trois quarts d'heure.
Ouais. Donc j'essaierai de parler, je peux. Ouais. Une demi-heure, pas plus. Mais n'hésitez pas, même pendant que je parle, à me poser des questions ou à lever la main. Alors, donc une autre note, peut-être de contexte, c'est que. Donc moi, j'ai grandi à la campagne, en Italie, dans un environnement plus proche de celui-là que de celui de Paris. Volume, le projet que je vous présente, est très urbain, très parisien comme projet, hein. C'est même un peu cliché, on peut dire aujourd'hui, parce que tout le monde aujourd'hui fait des tiers-lieux. Dans quelques mois, en fait, je vais bouger en Italie, là où j'ai grandi, pour essayer de décliner, en fait, ce qu'on a fait à Paris en version rurale. Donc, pour moi, la place, c'est aussi une manière pour voir comment on fait un lieu dans un contexte rural qui est complètement différent de celui de Paris, comme vous pouvez imaginer. Mais du coup, peut-être pour vous, c'est intéressant de voir les deux choses comparées. Bon, Volume, c'est un espace. Donc, on a créé la société en 2014. On a un lieu qui se trouve, si vous connaissez, pas loin des Buttes-Chaumont, dans le quartier de la Mouzaïa. Donc, dans un contexte, on a un lieu de 500 mètres carrés. Là, on est dans la cour. Et en fait, c'est un contexte assez particulier parce que d'un côté, il y a Place de Fête, qui est un des quartiers les plus populaires, voire les plus pauvres de Paris. Et de l'autre côté, en fait, juste derrière, juste au fond de la cour, là, au fond de notre espace, il y a Mouzaïa, la rue Mouzaïa, qui est un quartier de pavillonnaires, de maisonnettes, qui coûte 15 000 euros, 20 000 euros le mètre carré, entre 15 et 20 000 euros le mètre carré. Donc voilà, c'est une zone assez
Frontière, presque.
particulière, et nous, on est à cette frontière-là. Première question, tiers-lieu, est-ce que vous en avez parlé ces jours-ci? Oui? Pas beaucoup?
Non. On n'a pas trop défini.
Bon, en gros, tiers-lieu est une dénomination française, enfin une expression française qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Il y a eu il y a 6 mois ou 1 an des annonces en politique aussi, comme quoi on allait financer avec des millions d'euros des tiers-lieux, etc. D'ailleurs, c'est curieux parce que c'est une dénomination française, mais qui fonctionne tellement bien pour décrire ce que ça décrit, qui est aujourd'hui en train d'être décliné dans d'autres langues, en anglais, en italien, je ne sais pas si en espagnol aussi. Mais en gros, pour simplifier, tiers-lieu, c'est quelque chose qui n'est pas ni le premier lieu de vie, c'est-à-dire la maison, ni le deuxième lieu de vie, qui est le
Le
lieu du
travail.
travail. C'est un tiers-lieu, donc c'est quelque chose d'autre, assez indéfini, en fait. Je pense enfin, en tout cas, nous, notre lecture de notre projet, c'est qu'en gros, ne savait pas trop ce qu'on voulait faire en détail, on ne sait pas trop aujourd'hui vers quoi on va. Donc cette notion d'indéfinition qui est source de créativité et d'innovation, en tout cas par rapport à notre hypothèse. Donc voilà, donc volume est un lieu tiers, donc qui est, si vous y allez, c'est un peu une maison parce qu'il y a des gens qui y habitent, et il y a aussi des gens qui dînent le soir, etc. Mais c'est aussi un lieu de travail, un peu les deux, aucun des deux, parfois on ne comprend pas bien. Donc voilà, il y a cette notion d'indéfinition qui est très, très importante pour nous. Donc là, vous voyez quelques photos de nos espaces et une petite axonométrie sur la droite. On a deux étages on a chez nous une communauté de personnes qui fréquentent l'espace au quotidien, qui varie dans l'année en fonction de la période, entre 40 et 70 personnes.
Ça veut dire quoi, slasher?
Donc ces gens-là, on les appelle les slashers. Le slash, c'est... vous voyez ce que c'est?
D'accord.
Donc en fait, c'est tout le temps... nos membres, en fait, c'est que des gens qui ont un minimum deux boulots, ou un boulot que, pour décrire, il faut utiliser deux noms de boulot, genre architecte, écrivain, ou cuisinier, urbaniste, ou artisan... cuisinier ou artisan entrepreneur, voilà, c'est donc le slash.
Le slash qui débarque.
Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est un peu une blague aussi qu'on se fait à nous-mêmes, mais voilà, c'est une manière d'identifier en fait les métiers. C'est-à-dire, c'est toujours difficile de dire quel type de métier parce qu'il y a vraiment de tout. Ça va vraiment du cuisinier jusqu'au consultant dans le pétrole, quoi. Enfin. Et par choix, on ne fait pas de sélection ou de limitation aux métiers qu'on peut accueillir. L'idée étant de les mixer et de pouvoir les faire des rencontres un peu inattendues et parfois heureuses.
Si je voulais faire une liaison, autant un milieu, c'est un espace très difficile à définir. Autant les gens qui y vont, c'est très difficile à définir. Donc, très cher, c'est un mot qui aide à définir ce qui n'est pas...
Définissable.
Donc, quand on a créé les lieux, je disais qu'en 2014, on n'avait pas du tout les idées claires sur ce qu'on voulait faire. La seule idée claire qu'on avait, c'était qu'on voulait favoriser l'expérimentation dans la ville. On venait de tous, plus ou moins, des projets où l'expérimentation avait un rôle important. Et en fait, on se disait que dans une ville dense comme Paris, donc une des villes avec la pression immobilière la plus forte au monde, c'est toujours difficile, impossible d'avoir des espaces d'expérimentation, puisque tout est tellement cher et tout doit être rentabilisé. Que du coup les lieux sont hyper bien définis et c'est toujours difficile de faire quelque chose qui est un tout petit peu différent de la destination initiale. Et donc notre idée, c'était de quelque part de soustraire au marché immobilier pendant une période ces 500 mètres carrés et de pouvoir les utiliser pour faire émerger des choses expérimentales. C'était très vague et d'ailleurs ça nous a coûté pas mal aussi de temps pour trouver un propriétaire qui nous loue avec un tel projet. Mais c'était la seule, vraiment, peut-être la valeur ou la vision qu'on avait. Dans ce sens-là, peut-être pour vous, c'est intéressant de retenir qu'il faut pas toujours penser en termes de... Il faut définir le projet, le business plan dès le début. Enfin, si nous, on avait défini les volumes au début, on n'aurait rien fait de ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, bon, ce schéma-là, c'était le schéma qu'on utilisait pour... typiquement, quand on allait voir les banques pour leur expliquer notre projet, en fait, pour les convaincre à le financer, mais même pour engager des personnes à nous aider, enfin, des communautés. Donc en fait, ça c'est, j'imagine, très similaire à ce qui se passe ici à la place. Donc il y a ces trois couches, donc un espace physique, donc les mètres des mètres carrés, une communauté, donc mettre des gens dans ces mètres carrés, faire en sorte que ces gens-là soient une communauté, donc qu'ils puissent échanger ou partager des valeurs ou des projets. Donc c'est pas juste mettre des gens comme ça, c'est faire en sorte que ces gens-là puissent avoir des connexions et des interactions et des choses à partager. Et après, troisième couche, des événements. Donc l'événementiel est une composante très importante. Dans événements, on met tout. L'événement, ça peut être une formation comme aujourd'hui, ça peut être une soirée, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être un shooting photo, voilà. Et en fait, les événements, c'était une manière, surtout au début, mais on le fait toujours encore maintenant, pour faire venir dans notre lieu des gens, en fait, qu'on ne connaissait pas, donc des voisins, des curieux ou des gens qui après pouvaient rejoindre le projet. Donc, et en fait, notre idée, c'était de faire fonctionner ces trois couches-là ensemble. Donc l'espace, la communauté, les événements. De pouvoir, alors on ne voit pas très bien, mais il y a plein de lignes qui connectent les trois couleurs. Et c'était un peu voilà, cette idée-là.
Quand tu dis « nous », vous étiez beaucoup à la
base? Alors, on était, à ce stade-là, on était 4 ou 5. Donc, Domenico, notamment, il n'était pas encore dans le projet. Donc, les 4 ou 5, c'était officiellement les gens qui ont ensuite créé la société, donc qui ont mis aussi de l'argent. Et après, en fait, autour de nous, on avait constitué... Donc, les associés, on peut les imaginer comme ce truc-là rouge. Et à l'extérieur, il y avait un groupe de personnes qui sympathisaient avec le projet et qui venaient l'enrichir. Et on peut imaginer que là, c'était peut-être les voisins qui venaient de temps en temps. Donc cette notion, j'imagine, vous en avez parlé un peu de cercle et de un peu à couche d'oignon.
Pelure d'oignon.
Pelure d'oignon, où on a des gradients en fait, d'engagement différents. Donc un autre pari, ou une autre... Alors ça, c'est pas un pari, ça c'est plutôt... En fait, je disais au début, on a commencé, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On l'a compris, on a compris par contre que ça avait, en cours de route, que même si on ne savait pas ce qu'on voulait faire, on avait les idées très claires, même si on ne savait pas l'exprimer. Et du coup, quelque part, on a appris en cours de route ce qu'on était en train de faire et pourquoi on l'avait fait. Ça, c'est, par exemple, d'un point de vue de business traditionnel. C'est quelqu'un qui vient d'une école de commerce, il n'aura pas du tout cette approche-là. Donc nous, en fait, on a compris là, je dirais, il y a un an à peu près, donc 5 ans après l'existence de Volume, que ce qu'on était en train de faire, c'était de faire un pari sur le fait que produire des choses dans un environnement social ouvert comme celui d'un tiers-lieu était quelque chose qui avait à voir avec la convivialité. Quelque part, alors quand je parle de production, je parle par exemple, là on voit les imprimantes 3D, où on fait beaucoup de meubles, on a des machines un peu plus importantes qu'ici, on fait beaucoup de meubles, petite architecture, et il y a eu toujours cette notion aussi de la cuisine, de gens qui produisent pour des mariages, pour des événements, pour des cours de cuisine, il y a des gens aussi qui cultivent, et donc en fait, quelque part, cette notion de produire, on avait l'intuition qu'il y avait une notion de convivialité, en fait. C'était pas juste... traditionnellement, on peut imaginer la production en ville, en tout cas, à la campagne, beaucoup moins, comme quelque chose qui vient de loin, donc que nous, on reçoit et on consomme, genre je commande ou je vais acheter les légumes au supermarché, quelqu'un d'autre les a fait. Voilà, en fait, on voulait travailler sur cette notion de produire ensemble dans un lieu, et de faire en sorte que le fait de produire ne soit pas juste fonctionnel à la consommation, mais soit aussi une manière de créer du lien. Donc, bon, typiquement, la cuisine, on dit non, ça fait du lien, etc. Mais du coup, on voulait le faire de manière professionnelle, très large, en mélanger des grandes entreprises avec des mamies de quartier qui n'ont pas de cuisine pour cuisiner. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, toute notre même... positionnement, marketing, est autour de cette notion de la production conviviale en ville. Voilà. Donc voilà, comme je disais, qu'est-ce qu'on produit ? On produit beaucoup de bois, beaucoup d'objets en bois, avec des expertises, technologies assez avancées, donc tout ce qui est robotique ou conception numérique. Et après, toute la partie culinaire qui est à la fois associative, mais aussi professionnelle, avec des chefs qui donnent des cours, des grands comptes qui viennent faire des cours de cuisine, des grands groupes, hein, par grands comptes, dans des grandes entreprises. Voilà. Et donc un peu de chiffres, ça date d'il y a un an, mais bon, pour vous donner une idée, on a inauguré en 2015, 6000 abonnés à la newsletter, plus de 300 événements, 25 startups incubées, deux secrétaires d'État qui ont visité notre espace.
C'est qui le présidentiable?
C'est où?
Qui n'a pas été élu?
En haut. Visite de Premier ministre et d'un présidentiable, en haut à gauche.
Je ne suis pas très ferré en politique. Alors, on a eu le Premier ministre actuel.
Ok.
Édouard Philippe.
Et le présidentiable, c'est... Ah, ben... oui.
Mélenchon.
Non. Non.
C'est
pas le...
Le vert Jadot.
Non. C'est celui de... celui de Open Source Politics. Enfin...
Ah, Valentin.
Non. Bon, bref, je...
Okay, d'accord.
Désolé. C'est, on a, j'ai un des associés, Alexandre, qui est spécialement chargé de...
Il fait la politique.
Non, mais ça, et là, on vient de recevoir, c'est pas compté parce que c'est, c'est pas à jour, mais on vient de recevoir aussi le Villani, le candidat à
Paris. Cédric Villani.
À la mairie de Paris. Donc, quelque part, non, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part... Enfin, on a été un peu même surpris en fait par ça, c'est-à-dire qu'ils venaient nous voir, hein, on ne savait pas trop pourquoi. Mais par contre, voilà, c'est un projet qui a fait beaucoup parler de lui et qui aujourd'hui, quelque part, pour des raisons même un peu qu'on ne comprend pas, en fait, c'est un lieu où les gens veulent se montrer. Même dans la politique pour s'associer à, je sais pas, aux valeurs démarche, de l'économie sociale solidaire, etc.
Une nouvelle façon d'organiser les choses.
C'est les faiseurs, en fait, c'est une question de faire.
Oui, oui, le faire dans la ville, etc. Oui, et puis entrepreneuriat social aussi, ça c'est aussi quelque chose qui... Voilà. L'autre chose, on a compté que jusqu'à l'année dernière, on avait eu 25 000 visites, donc c'est... Au-delà des 70 personnes qui viennent tous les jours, il y a beaucoup d'événements qui rassemblent beaucoup de gens. Et ça, c'est bon, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais c'est hyper important en fait pour la vitalité du lieu. Alors, donc je disais tout à l'heure qu'on avait cette idée de faire de l'expérimentation et favoriser l'expérimentation en ville. D'où venait cette idée? Venait d'un projet qu'on avait fait juste avant Volume. Donc avec Domenico et moi, on avait travaillé sur ce projet-là en Norvège, un projet qui s'appelle Dreamhammer, où en tant qu'architecte, on nous avait demandé en gros, revitaliser, un peu comme vous faites ici, de faire de l'activation en fait d'un parking au centre de la ville, un parking, enfin... qui du coup était utilisé que comme parking, la ville voulait en faire un lieu de vie. Et donc ils disaient, leur demande c'était de faire venir des artistes pour faire une œuvre d'art au milieu de la place, une statue ou quelque chose, en se disant qu'en faisant cette œuvre, ça aurait amené de la vitalité. Et donc nous en fait on avait remporté le concours en disant qu'on n'allait pas faire cette œuvre, mais que plutôt on allait faire une démarche pour créer une communauté et faire venir juste des habitants sur place pour qu'ils puissent déjà s'identifier avec cet espace et puis en fait commencer à construire des choses ensemble, avec l'idée qu'on ne peut pas vraiment revitaliser un espace s'il n'y a pas de communauté. Donc il faut d'abord créer cette communauté avant de pouvoir construire quelque chose. Donc ça c'était le slogan du projet, créer des communautés avant de construire, c'était un peu ça. Et donc en fait, alors là où je veux en venir, c'était qu'avec Volume, une fois ce projet terminé, il y avait eu cette intuition de se dire, bon, ça c'est un projet qui se termine à un moment donné, mais comment on peut rendre ça permanent, en fait, avoir ces espaces d'expression et d'expérimentation qui soient permanents dans la ville. Et donc Volume était un tentatif en fait d'avoir ça, et surtout chose importante, à l'époque, pour faire venir des citoyens sur la place, on s'était rendu compte que c'était très difficile, c'est toujours difficile de mobiliser des gens, mais que ce qui fonctionnait très bien, c'était d'organiser des repas. Donc ça, l'élément C'est tout bête, mais en fait, on a essayé plusieurs choses. Et la première fois où ça a commencé à marcher, c'est quand il y avait des choses à manger, du vin, et tout de suite, il y avait une énergie comme ça qui se dégageait. Donc ça, c'était quelque chose aussi qu'on avait retenu, en fait. Alors, l'autre chose, donc là, je vais parler à partir de maintenant plutôt de comment le Food Lab, qui est cette association d'expérimentation culinaire, a émergé. Alors, donc dans le projet initial, quand on a signé le bail, monté le projet d'un point de vue du financement, on ne savait pas du tout qu'on allait faire un Food Lab avec une cuisine professionnelle. Chose qu'aujourd'hui on a et qui est hyper important pour notre... Donc pourquoi, comment ça se fait que... Donc comment ça se fait qu'en fait on ouvre un lieu, on monte tout un projet à financer et qu'en fait on se retrouve avec quelque chose qui après un an émerge de ce chose-là mais qu'on n'avait pas prévu. Ça c'était un choix. Donc le choix a été fait de justement de laisser dans la conception de ce projet beaucoup de choses indéfinies. Donc en gros, on avait défini à peu près 70% des activités de ces 500 mètres carrés. Et le reste, sans trop savoir ce qu'on allait en faire, parce qu'on voulait en fait que les gens viennent, un peu comme sur la place de tout à l'heure, et décident ou disent en fait ce dont ils avaient besoin. Et donc pour faire ça, dès qu'on a signé le bail, donc avec plein de travaux à faire. Donc là, vous voyez, c'était une photo prise une semaine avant l'ouverture, donc il y avait encore du boulot. Et en fait, on a commencé tout de suite à faire venir des gens pour des événements, des soirées. Même on avait une salle où les gens pouvaient travailler pendant les travaux. Donc ce n'était pas hyper confortable, mais voilà. Il y avait, on voulait que les gens habitent le lieu avant qu'il soit complètement fini. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que du coup, une certaine communauté de personnes commençait à fréquenter cet endroit, qui avait des besoins spécifiques, chacun en fonction de leur métier, de leurs envies. D'un côté, il y avait nous qui avions cette expérience de la cuisine comme quelque chose qui rassemble. Donc on organisait par exemple beaucoup d'apéros, beaucoup de repas, enfin on offrait à manger aux gens. On avait une petite cuisine à l'époque qui était un peu comme ça. Et donc il y avait cette intuition à nous. Et après il y avait aussi de plus en plus de personnes qui fréquentaient les lieux, qui voulaient se lancer dans des projets alimentaires et qui du coup avaient besoin d'une cuisine pour cuisiner. Et donc la décision a été prise 6 mois après l'ouverture. De lancer une campagne de crowdfunding, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Financement participatif,
pour pouvoir transformer cette pièce-là en cuisine professionnelle, donc pour pouvoir financer les travaux. Et voilà, là, vous la voyez à peu près avec 50% des travaux faits. Voilà, ouais, j'aurais dû peut-être. Ouais. Non, il y a toute la cuisine professionnelle en fait qui est là derrière cette, on la voit pas, elle était finie à l'époque, mais il y avait tout le mobilier en fait qui était encore très bricolé ici. Aujourd'hui, voilà.
Vous avez réussi à récolter combien avec le financement participatif ?
On a récolté autour de 17-18 000 euros. Okay. Le budget global était de 40 000 euros pour tout l'équipement. Et donc on a fait ces travaux et puis on a créé une offre de service qui est un peu comme en cours de route quoi. On ne l'avait pas vraiment anticipé alors que tout le reste de l'espace tournait déjà à plein régime quoi.
Mais ça veut dire que les 70% qui avaient été pensés en fait ils finançaient
oui. Donc on pourra peut-être revenir sur ce détail là à la fin. Mais il faut dire que c'est bien beau de dire que... Enfin, là, je raconte l'histoire de l'indéfini. En fait, l'indéfini a un coût.
Oui,
surtout quand on est dans une situation de marché immobilier hyper tendu. Donc, Volume est une société qui n'a pas fait de bénéfices pendant 5 ans. Et sur laquelle il y a eu beaucoup de bénévolat. Donc là, cette année, peut-être pour la première fois, en 2020, donc 5 ans après son existence, je pense qu'on arrivera à ne plus avoir de bénévolat et à rémunérer tout le monde, voire même à être un peu rentable. Mais donc, oui.
Oui, parce que moi, je me pose la question financière
c'est tout à fait ça.
C'est 5 mètres carrés au milieu de Paris.
Oui, oui, voilà. Et bien oui, c'est 120 000 euros de loyer par an. Hors taxe.
Voilà, tout simplement.
Et alors là-dessus, oui, pareil, les gens, quand ils rentrent chez nous, ils nous disent « Ah oui, vous avez le lieu, la mairie de Paris vous a filé un lieu. » Non, en fait, on loue comme... On est une entreprise et on loue en tant qu'entreprise à un prix normal de Paris. Mais il y a effectivement cette notion de financer l'expérimentation avec... les 70 mètres carrés d'usage plus traditionnel, on va dire. Donc, pourquoi un Food Lab c'est né un peu comme ça. Et donc, l'idée du Food Lab, en fait, bon, d'un point de vue d'infrastructure, vous avez deux espaces. Alors, un espace qui est derrière là, qu'on ne voit pas, qui est une cuisine professionnelle, comme dans un restaurant, mais un peu plus grand que dans les restaurants parisiens. Les cuisines sont toutes petites, donc où on peut faire de la production et où on peut accéder que si on est abonné avec un carnet, enfin une formation d'hygiène et sécurité, etc. Et l'autre partie qui est celle-là, c'est en journée la cantine en fait des 70 personnes et en soirée week-end, c'est un lieu événementiel plutôt pour des cours de cuisine ou des dîners. Avec une grande majorité d'associations et d'activités non commerciales. Voilà. Et donc, l'idée du Food Lab, c'est de... Donc, Fab Lab, vous en avez parlé un peu des Fab Labs ? Pas trop ? Trop peu ? Donc, Fab Lab, c'est un... ici, on peut dire qu'on est dans un Fab Lab pour simplifier. En gros, Fab Lab, c'est un lieu où on a des machines pour fabriquer des objets avec une lecture sociale et éducative de la production d'objets. Donc, c'est pas une usine, c'est un lieu où on se rencontre, on apprend, on expérimente, etc. Et où on fait du prototypage, donc où on teste des choses qui pourraient devenir ensuite un produit industriel. Donc cette notion de prototypage, nous on l'a associée à la cuisine. Et le Food Lab, donc c'est ça, c'est cuisine plus prototypage, c'est le Food Lab. Et donc en gros, le Food Lab aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, enfin, on va dire, les clients du Food Lab, c'est soit des associations, mais qui du coup, ce n'est pas des clients puisqu'ils ne payent pas. Qui utilisent notre espace pour expérimenter, pour se rencontrer, pour faire de l'éducation alimentaire avec les réfugiés, etc. Ça, c'est environ 20% de l'activité, l'activité sociale et non commerciale. Et l'autre 80%, en fait, c'est des entreprises, des traiteurs ou des gens qui doivent ouvrir des restaurants, qui viennent chez nous, en fait, pour prototyper, c'est-à-dire pour tester. Et en fait, par exemple, quand on veut ouvrir un restaurant, au lieu de monter un business plan hyper précis et puis s'engager sur un 369, un bail 369, on vient chez nous, ça coûte 540 euros par mois. On prend 6 mois et puis on voit si ça marche. Et donc, dans le prototypage, ce qui est très important, c'est que quand on prototype, on rate plein de choses. Et donc... la moitié de nos abonnés, en fait, au bout de 6 mois, 1 an, ils décident d'arrêter parce que ça n'a pas marché. Et du coup, ils ont perdu 5 000 euros. Mais plutôt, ils ont perdu 5 000 plutôt que 30 000. Et les autres, pour qui ça fonctionne, soit ils ouvrent un restaurant et du coup, ils partent de chez nous. Soit, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, ils devraient partir de chez nous pour avoir une cuisine... on va dire à eux, mais ils n'ont pas les moyens et du coup ils restent chez nous, mais ça, des fois ça ne leur convient pas tout à fait. Quand l'activité grandit, en fait, chez nous, c'est pas fait pour ça, quoi. Et donc, aujourd'hui, en parallèle, on ouvre d'autres cuisines plus, on va dire, pour ces gens-là, mais voilà, il y a vraiment cette idée qu'en gros, tu viens chez nous et soit ça ne marche pas, soit si ça marche, tu pars. Dans tous les cas, tu pars. Enfin, dans tous les cas, on veut que les gens ne restent pas chez nous. Si on veut.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est
ça, ouais. Enfin, ce que j'ai juste dit, un truc que j'ai trouvé toujours très intéressant, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui cuisinent, qui aiment beaucoup l'ambiance. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans la... C'est pour ça qu'ils veulent rester aussi.
Ah oui. Alors, ils aiment l'ambiance. Ils aiment l'ambiance. En fait, à Paris, quand on veut cuisiner, il y a deux possibilités. Enfin, avant ça, il y avait une seule possibilité. Soit, en fait, de louer une cuisine qui est normalement au sous-sol, dans un restaurant ou autre. Mais du coup, on est dans un contexte hyper différent. On cuisine et on s'en va. Il n'y a pas du tout d'environnement social. Donc, au-delà du fait que c'est sympa, il y a aussi une notion d'intérêt économique. D'intérêt, en fait, économique. Le prototypage, c'est aussi que il y a 70 personnes à qui tu peux faire goûter. Il y a des grands comptes qui viennent à qui tu... En fait, quand il y a des grosses entreprises qui viennent faire des séminaires chez nous, c'est tout le temps des gens du Food Lab qui cuisinent. Donc, ça fait que tu as déjà des clients. Et en plus, les clients te font un retour. Et il y a souvent, par exemple, les prototypages de restaurants mexicains, ils affinaient leur piment, leur niveau de piment aussi en fonction des retours. Il y a toute cette notion-là, en fait, d'être dans un environnement avec une communauté. C'est pas juste l'outil de la cuisine, c'est l'outil plus la communauté.
Oui, parce qu'en fait, du moment qu'ils quand ils prototypent, ils produisent, et donc du coup, après cette production, il faut bien que quelqu'un la mange.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc souvent, c'est... il y a toujours des trucs à grignoter quand on passe, donc ça c'est sympa pour les coworkers. Et voilà, ça c'est toujours un peu frustrant parce que ça sent toujours super bon, il n'y a pas toujours des choses à manger, quoi. Donc ça c'est la règle 80-20, que vous en avez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une règle qui existe, ouais, qui vient d'un concept mathématique de la fronde de Pareto, donc en gros... Qui peut être appliqué des clients de différentes manières. Par exemple, en entrepreneuriat, on dit que le succès d'un projet, souvent, est lié à 20% des efforts. C'est-à-dire qu'il y a 80% des choses qu'on fait, mais qui ne fonctionnent pas. Donc là, on utilise ça pour dire que 80%, c'est notre activité commerciale qui nous permet de payer le loyer et les charges. Et le reste du 20%, c'est des activités non commercial, donc ils ne rapportent pas d'argent, mais qui font que le projet est intéressant, donc plutôt de la recherche. Voilà, et qui fait que le projet est intéressant, qui a une vocation sociale, mais aussi en fait ce 20% indirectement alimente les 80%, puisque par exemple, si on veut faire un séminaire d'entreprise d'alimentation, ben, on ne va pas dans un hôtel, on vient plutôt chez nous, parce qu'il y a cette notion de communauté qui expérimente des choses. Alors ça, c'est, je vais vous montrer, c'est la vidéo qu'on avait créée pour le financement participatif. Donc je vous la montre parce que en gros ça résume un peu le projet, en tout cas tel qu'il avait été conçu à l'époque il y a 4 ans. Aujourd'hui il a un peu changé. Mais...
C'est quoi Volume?
Volume est un espace de travail collaboratif de 500 m² situé au cœur du quartier de la Mouzaïa, dédié aux esprits créatifs en tout genre.
D'accord, c'est super, mais qu'est-ce qu'on peut faire à Volume?
À Volume, on peut travailler ensemble et développer des projets innovants, mais aussi se former à différentes disciplines, fabriquer des meubles, déguster des plats faits maison avec des produits de qualité et participer à des cours de cuisine créative et bio.
Un Food Lab. Mais pourquoi un Food Lab?
Il y a plein d'Italiens chez nous, mais vous savez, ils sont obsédés par la cuisine. Mais il n'y a pas que ça. À Volume, la plupart des rencontres se font autour des repas. Ces rencontres nous ont fait comprendre qu'il y a une grande envie de cuisine saine, conviviale, faite maison, gourmande et pourquoi pas innovante.
Ouais, mais en gros, vous voulez faire quoi?
Nous voulons créer une cantine associative où différents chefs pourraient proposer leurs plats gourmands à des prix raisonnables en promouvant un mode de consommation éthique et soutenable. C'est pour ça que nous avons besoin de vous.
Pourquoi, si vous avez déjà une cuisine?
Bah, parce que notre chef végétalienne Camilla nous a dit que deux plaques électriques et de l'amour ne suffisent pas pour faire une cuisine. C'est pour ça que nous souhaitons aménager une cuisine professionnelle pouvant être utilisée par des pros.
Et moi, j'y ai pas de four à pizza, je me casse.
Oui, mais c'est qui tous ces pros?
Camilla, vous la connaissez déjà, Valentina, Luna, les chefs de la Belle Assiette, un réseau international de chefs à domicile et d'autres encore.
Et ce ne sera que pour les pros?
Mais pas du tout! Toutes nos activités se basent sur le principe du mélange entre professionnels et amateurs. Apéro avec dégustation tous les mardis, cantine associative tous les midis, des cours de cuisine tous les mois, mais aussi de la cuisine végétalienne, des soirées open pizza, des ateliers pasta-thérapie, café culturel, des cours de pâtisserie, de la street food, un laboratoire d'innovation culinaire, un laboratoire de la pâtisserie, un laboratoire de la pâtisserie.
Alors, vous êtes des nôtres ?
Voilà. Donc, ouais, ce projet-là, cette vidéo-là parle aussi beaucoup de cette idée, en fait, de mettre plein de choses dedans. Voilà, il y avait, à l'époque, c'était beaucoup plus dispersé qu'aujourd'hui. Mais voilà, il y avait plein de soirées, d'initiatives différentes qui tournaient autour de cet outil commun, la cuisine. Alors, donc, ça, c'est pour vous montrer l'aspect plus lié au design. Donc, on a conçu avec des architectes membres de Volume des tables qui sont les tables que vous voyez tout à l'heure dans la photo, qui sont des tables réversibles fabriquées chez nous. Donc elles ont été fabriquées avec les machines de notre espace et qui peuvent servir donc de table de travail, donc côté bois, et de table de cuisine avec cours de cuisine avec l'inox. Bon. C'est moins génial de ce qui paraît parce que ça ne fonctionne pas tout à fait. Enfin, ça fonctionne, mais c'est hyper dur à faire tourner. Du coup, avec le temps, on laisse toujours le côté inox parce que ça fonctionne pour les deux. Voilà, mais ça, c'est ce qui se passe aussi quand on prototype et on fait des premiers objets. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Enfin, là, par exemple, les roulettes sont cassées, on a dû les changer. Enfin, voilà, il y a ce côté aussi de bricolage et de mix de mix entre professionnel et amateur qui est très important, hein, qui est un peu au cœur de tout ce qu'on fait. Enfin, voilà, des exemples d'événements. Ça, c'est un designer culinaire, Yuan, qui a fait un cocktail lumineux, donc autour de la question des couleurs, avec une table lumineuse qui a été conçue par elle et fabriquée à Volume. Donc le côté fabrication et alimentation qui allaient ensemble. Pasta Thérapie, c'est un projet que j'avais monté avant Volume avec ma femme, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était en gros des cours de cuisine en entreprise qui s'appelait Pasta Thérapie, pour apprendre à faire des pâtes, avec l'idée aussi de travailler manuellement des choses pour pouvoir créer du lien.
Et thérapie, c'est quoi le côté thérapie ?
Ouais, justement, cette thérapie, c'est qu'en faisant des choses ensemble,
okay.
Avec les mains, ouais. Les gens, par exemple, deux managers qui se sont jamais parlé une boîte, ils rigolaient.
En faisant les pâtes, voilà. Il se passe des trucs.
Donc, toujours cette idée de production et convivialité. Open Pizza, pareil, d'autres soirées où on faisait des pizzas pour tout le monde. On a financé une partie du financement participatif en vendant des pizzas, notamment. C'est-à-dire que les gens, en fait, venaient manger des pizzas et au lieu de payer la pizza, finançaient le financement participatif. Alors, du coup, là, peut-être on va s'arrêter ici.
Oui, là, on va toucher la fin. Parce que si
tu as... Non, ça, c'est plutôt la suite. Après, peut-être, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, je peux dire, alors, pour conclure. En gros, pour conclure... Donc ça, c'était il y a 4 ans, cette vidéo. Le projet a énormément évolué aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, on était plutôt axé sur une cantine. Là, en fait, on ne fait pas du tout ça. On fait plutôt cuisine professionnelle mise à disposition. Et quand les gens mangent sur place, soit ils cuisinent eux-mêmes, soit c'est informel. Enfin, les cuisiniers en fait trop ou plus et ils le donnent. Enfin, il n'y a pas de... c'est pas un restaurant, quoi. Et ensuite, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, quand on ouvre un lieu comme ça, Alphonse pourra le témoigner, en fait, les premiers 2-3 ans, on est toujours là-dedans. On n'a pas le temps d'aller sortir, d'aller voir des partenaires, etc. Et par contre, 2-3 ans après, on a eu moyen, en fait, d'aller découvrir d'autres personnes, d'autres initiatives. On s'est rendu compte qu'il y en a plein, en fait, à Paris. Alors, pas spécifiquement sur la cuisine, hein, mais... Des lieux comme celui-là, il y en a plein dans Paris. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait l'année dernière, étude Fab City pour la mairie de Paris, où on a cartographié un peu les zones chaudes, on va dire, de où ces lieux-là se concentraient. Et donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, notre activité est plutôt concentrée sur la fédération et la mise en lien de ces acteurs, plutôt que sur l'espace lui-même, qui aujourd'hui, en fait, l'espace...
C'est un peu les quartiers populaires, ça, non ?
C'est un peu biaisé parce que on a aussi privilégié notre zone d'action qui est le nord-est parisien, l'arc de l'innovation. Donc la mairie de Paris aussi a une initiative d'arc de l'innovation qui est sur ces territoires-là. Donc c'est pour ça qu'on a étudié principalement ces territoires-là. Bon, voilà. Et ça, c'est aussi pour dire que finalement, en fait, l'ambition initiale, c'était de, quelque part, de changer la ville ou de la rendre plus expérimentale. Et à la fin, aujourd'hui, on est revenu à ce travail sur l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert un lieu pour faire des choses dans le lieu, à la base. Ça a pris beaucoup de temps de le mettre en place, mais l'ambition était plutôt urbaine. Et aujourd'hui, on est sur des réflexions et des projets plutôt urbains. Là, c'est un projet, un concours qu'on a fait, qu'on n'a pas remporté malheureusement, mais qui est c'était pour la création d'un méga food lab à Chelles, donc en banlieue parisienne, en lien avec une zone d'agriculture. Le mont... ça m'échappe le nom. Bref. Donc le travail avec des agriculteurs qui ont des besoins de production, de conserverie, de vinification, etc. Donc nous, on travaillait sur ce lieu à droite pour leur fournir des outils. Et dernière chose, donc j'ai parlé du fait que, en termes, ça c'est peut-être pour vous à retenir aussi, donc le 20% dont je vous parlais, expérimentation-recherche, ça a été pendant 5 ans une perte, d'un point de vue modèle économique, une perte de revenus, parce qu'on l'a financé en faisant du bénévolat ou en faisant venir des bénévoles. Chose qui n'est pas facile dans une entreprise, parce que l'association Food Lab existe depuis un an, mais voilà, faire venir des bénévoles dans une entreprise, c'est toujours un peu délicat, même si on dit qu'on est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Voilà, mais bon, on a financé comme ça. Et là, par contre, depuis un an, en fait, grâce à ce travail d'expérimentation qu'on a fait, en fait, on a développé des contenus, des projets, des idées qui aujourd'hui sont éligibles, ont été éligibles à des plutôt gros projets européens de recherche, donc on appelle ça les H2020. Et donc aujourd'hui, on a deux projets, un sur la partie fabrication numérique et l'autre sur l'alimentation et l'agriculture, qui du coup financent ce 20% restant. Voire à plus, en fait. Enfin, ça finance très bien, en fait, si on veut, l'expérimentation qui a été menée pendant 5 ans. Et pareil, on n'avait pas du tout prévu d'avoir accès à... Enfin, comment dire, c'était pas un projet, en fait, de faire ces projets-là. C'est plutôt des manières de croissance organique. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. De croissance organique, référencement organique, non?
Non.
Ouais, en fait, organique, ça veut dire que juste on fait des choses et puis à un moment donné, il y a une opportunité. On nous dit, on est rentré dans un réseau et en fait, grâce au fait d'être dans ce réseau-là, on nous a proposé de faire un projet et du coup, on a récupéré un financement. Voilà, ça, c'est un peu croissance organique, c'est un peu ça. C'est au lieu de payer pour faire de la pub et atteindre des clients, de juste faire des choses, enfin... de faire, et puis à un moment donné, on trouve des solutions.
J'ajouterais sur ça que c'est un peu l'idée à la base même de ce type de formation, session, c'est de mélanger les gens qui participent, revenant dans différents contextes. Par exemple, le fait qu'on travaille avec des artistes, ou nous, on avait même parlé avec la ressource humaine, ça n'était pas tout possible. C'est justement de recréer cette idée de l'opportunité organique. Mmh. Dans le moment où en fait on crée des réseaux et on connaît les gens qui développent des choses.
Typiquement là, bon, l'image, je ne l'ai pas trop expliqué, mais en gros, ce programme-là, on l'a remporté avec des cuisiniers et des gens qui font de la robotique. Donc des choses qui potentiellement n'ont rien à voir. Mais du coup... comme nous, on a un Fab Lab chez nous, la robotique, c'est un sujet pour nous. Et donc, eux, ils développent des robots agricoles spécialisés pour les petites zones de terre en ville, quoi, petites parcelles. Et donc, voilà, effectivement, le fait d'avoir un lieu où ces choses-là se mélangent, on pourrait penser que c'est anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas, puisque... Parce que la personne qui fait le robot, il va croiser quelqu'un qui est capable derrière de cuisiner et qui a du coup besoin des légumes cultivés par le robot ou pas par le robot, mais voilà, il y a des projets en fait naissent comme ça.
Oui, et qui peut lui amener son expertise dans le jardinage calibrer du je sais pas quoi.
Voilà. Donc là, ce programme-là, Centrino, dont je suis assez content, assez fier, parce que ça valorise en fait tout le travail d'expérimentation qui a été fait pendant 5 ans, et il va démarrer au mois de septembre-octobre, ça va durer 4 ans, et en gros, il va permettre de financer ce 20% qui du coup ne sera plus 20%, mais deviendra peut-être même plus. Je vais terminer, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses.
Juste avant, dans l'agriculture et l'urbaine, tu fais aussi les toits végétalisés, là, tout ça.
Ouais.
Tous les gens à faire ça, en fait, de plus en plus.
Alors, moi personnellement, de tout ça, je fais pas grand-chose parce que, moi, en fait, j'ai un travail, moi, Francesco, je fais le travail plutôt de connecter, en fait, ces gens-là. La question pourrait être, est-ce que chez nous, il y a des gens qui font ça? Nous, on a des collectifs, des associations, des entrepreneurs chez nous qui s'occupent d'agriculture urbaine. Les toits, c'est pas un choix, mais c'est pas quelque chose qu'on pratique au sein de Volume, mais on connaît plein de gens qui le font, ouais. Et c'est une vraie tendance, effectivement.
Ah oui, tous les gens le font.
Nous, par exemple, sur ce projet-là, en fait, sur le projet Centrino, on va avoir deux sites. Donc un site qui a le bâtiment à gauche qui va abriter la cuisine où on va cuisiner avec des produits locaux et qui est pas loin de là où on est aujourd'hui. Et après, Jardin de Traverse, c'est la petite ceinture à Paris, je ne sais pas si vous voyez. Donc un morceau de cette petite ceinture a été récupéré par une association d'agriculture urbaine et ils vont cultiver sur place avec un volet social pour rassembler des personnes du quartier et aussi avec une expérimentation plus robotique. Donc voilà, ça c'est les deux sites de projet, mais il n'y a pas de toit végétalisé, mais on pourrait... c'est par occasion en fait qu'on fait ça. On pourrait le faire sur des toits...
Non, c'est juste parce qu'il y a d'autres contraintes, c'est pour ça.
Que oui, c'est un autre projet, c'est d'autres projets. D'un point de vue même d'exposition sociale, pas la même chose, c'est moins accessible, etc.
Moi, j'aurais des commentaires juste pour résumer et rappeler un peu les choses qu'on a vues aujourd'hui. Que je trouve que c'est très connecté avec plein de réflexions qu'on a fait la semaine dernière. Je ne sais pas si vous rappelez toute la réflexion sur ces profils des catalyseurs. On n'avait pas encore un nom pour définir tous ces profils. En fait, ici, dans ce type de projet, on voit quelque part un double effet. Dans ce sens-là, on a en fait un premier effet catalyseur, et c'est la création de cet espace qu'on avait en tête à 70%, on a dit, mais qui quand même avait en fait une direction claire d'expérimentation. Et donc ça a permis justement d'être un espace catalyseur des choses qui n'étaient pas du tout claires au début. Et en fait, ça a permis à d'autres gens qui étaient elles-mêmes catalysatrices de se regrouper dans l'espace et créer des opportunités. Donc, dans des différents domaines, même dans la hybridation entre différents domaines, qui n'aurait pas eu possible dans d'autres lieux. En fait. La définition était telle une opportunité pour des gens qui avaient déjà les choses claires, mais aussi pour des gens qui voulaient expérimenter, ils n'avaient pas les choses claires, ils se sont croisés avec d'autres gens. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et après, je ne retourne pas à toute la question qu'on avait même au début, même le graphique, ça aurait eu très utile pour nous pour expliquer voilà, ça, l'idée d'un espace, une communauté et l'événement. Et nous, en fait, c'est un peu les trois sujets qu'on a travaillé. Par contre, l'événement, c'est quelque chose qu'on a laissé un peu transversal. Et nous, on avait espace, communauté et collaboration. Mais en fait, c'est
L'événement, vous faites un événement jeudi, non? C'est un peu la même chose.
C'est la même chose, mais c'est raconté d'une autre façon. Et je trouve ça assez inspirant pour comprendre même l'histoire des événements.
Cercles.
Des cercles. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé de comment dans les communautés c'est intéressant, important d'avoir des différents niveaux d'engagement. Et avec cette image, on peut le voir. C'est pas qu'on doit être tous très engagés, non, mais c'est même intéressant de ne pas être tous au même niveau.
D'ailleurs, c'est curieux parce que là, on voit qu'il y a le lieu au milieu, ensuite il y a le quartier, la ville et l'international. Donc, c'est effectivement des couches sur lesquelles on a travaillé progressivement.
Ben, nous, on a parlé du local, c'est assez connecté.
Mais comme pivot un peu central de connexion des gens, c'est l'événement en fait.
Alors, pour nous, l'événement, là je parle vraiment pour volume, l'événement, en fait, alors, il y a une communauté chez nous. Si on ne fait pas d'événement, il y a une communauté qui est là, soit 50 personnes. Mais en fait, l'événement est essentiel pour faire en sorte que cette communauté soit ouverte et reste dynamique. C'est-à-dire, au début, on faisait beaucoup d'événements parce qu'on devait faire venir des gens. Il y avait zéro personne, on devait arriver à 50. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins d'événements, mais il faut absolument qu'on en fasse pour faire en sorte qu'il y ait...
Nouveau,
ouais.
En fait.
Ouais. Et donc, typiquement, si on fait pas... Et même pour avoir des personnes différentes. Les gens du quartier qui travaillent en journée peuvent venir qu'en soirée. Donc, si on ne fait pas d'événements, ils ne viendront jamais. Et aussi nos membres, en miroir de ça, nos abonnements sont exprès faits pour être très facilement, enfin pas du tout engageants. C'est-à-dire qu'on on peut prévenir 5 jours à l'avance, je suis plus là, je paye plus. Et ça, d'un point de vue de financement, c'est difficile à gérer. Mais c'est hyper, hyper important pour le projet. Parce que sinon, au bout de 2 ans, ça serait des bureaux partagés. Et qui perdraient complètement leur vitalité, leur ouverture sur la ville.
Okay, bon, merci.
Merci beaucoup.
Merci.